France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Sous et sur les mers, l'histoire à la pêche, car c'est écrire l'histoire d'hommes et de femmes, les gens de la mer, l'histoire du droit aussi et celle des migrations, comme un va-et-vient entre le passé et le présent, une histoire de dur labeur et de poésie aussi.
Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages, l'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève. Ceux qui ne sont pas revenus.
Océanonox, Victor Hugo en 1840 dans le recueil Les rayons et les ombres. Bonjour Hugo Vermeren.
Bonjour.
C'est beau, hein? C'est
magnifique.
Victor Hugo, bien sûr. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS, spécialiste du Maghreb contemporain et de l'histoire environnementale. Et avec vous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Romain Grancher. Bonjour.
Bonjour.
Historien chargé de recherche au CNRS également. Vous publiez La mer en commun, le monde de la pêche à Dieppe, 18e, 19e siècle. D'ailleurs, monde en commun. Est-ce que l'on peut dire que ces mers font partie de tous ces biens communs qui sont facilement grignotés d'ailleurs? C'est un bien commun, la mer.
Mais écoutez, oui, la mer, c'est un bien commun. Et bon, moi, je l'ai étudié essentiellement au 18e et 19e siècle, essentiellement à partir du cas de la France. Et à cette époque-là, prévalait ce qu'on appelait la liberté de la pêche, avec l'idée que n'importe qui pouvait capturer des poissons. On se référait à une notion juridique du droit romain, qui était la notion de res nullius. L'idée que les poissons étaient des choses qui n'appartiennent à personne, mais qui peuvent appartenir à tout le monde. Tout le monde peut se les approprier. Et donc le roi, notamment par son ordonnance de la marine de 1681, le roi Louis XIV, impose ce principe de la liberté de la pêche.
Et c'est très important de mettre déjà en place cette idée-là. Tout le monde peut prendre un bateau ou alors essayer de pêcher sur le bord. C'est pas facile de pêcher. Donc, c'est ça, c'est possible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'une autorisation spéciale pour aller en mer et pour pêcher.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la France, dans l'ancien régime, on pourrait dire que cette liberté, en fait, c'est une liberté conditionnée. Une liberté conditionnée, d'une part, parce que pour avoir le droit de pêcher, il faut accepter d'être un gens de mer, et pour cela, d'accepter les contraintes qui incombent à cette population très spécifique de la France d'ancien régime, dans la mesure où, depuis la fin du XVIIe siècle, les gens de mer sont classés. On dit qu'ils sont classés suite à la mise en place d'un système des classes qui visait à répondre au problème de main-d'œuvre dans la marine royale. Et donc, en échange du droit de pêcher, les pêcheurs devaient accepter les contraintes qui allaient avec ce système des classes, et notamment l'obligation de servir dans la marine de guerre un certain nombre d'années au cours de leur existence.
Au moment où vous entendez tout cela pour le cas de Dieppe au 18e et au 19e siècle, Hugo Vermeren, vous vous dites « Ah ben là, on trouve un point commun sur cette histoire de la pêche, quelles que soient les zones. » Je l'ai dit, vous êtes spécialiste de cette pêche méditerranéenne.
Oui, cette question de l'appropriation des ressources et des territoires halieutiques, enfin des endroits, des zones de pêche et de leurs ressources, elle se joue aussi en divers endroits du monde pour les armements, dans le cas de la France, en différents endroits, hein, à Terre-Neuve, sur l'Afrique occidentale et puis au Maghreb, le territoire que j'ai un peu plus étudié, avec évidemment une appropriation juridique qui commence parfois par la ressource et pas par l'occupation d'un territoire nécessaire. Donc voilà, des concessions qui peuvent être accordées, des droits de pêche, notamment par exemple sur le corail rouge en Tunisie, par la France dès 1832, qui obtient le droit de pêcher sur le territoire qui appartient au bey de Tunis à cette époque-là. Donc voilà.
C'est une histoire juridique. Hein. Tous les deux, tout de suite, vous m'avancez le droit parce que c'est une histoire sociale, culturelle, mais comme une évidence, on a entendu de la poésie pour commencer. Mais c'est une histoire juridique. Il y a du droit. Et cela, Romain Granchet, vous l'avez fait remonter déjà jusqu'aux Romains. Enfin, on sent qu'il y a une vraie réflexion sur un temps très long. Qui peut pécher? Comment peut-on pécher?
Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, ce qui se passe à la fin du XVIIe siècle, c'est que, à l'initiative de Colbert, donc il y a cette grande ordonnance de la marine de 1681, qui est un peu le code de la mer de l'époque, et qui va justement avoir pour but de clarifier, d'homogénéiser toutes les sources du droit, à la fois donc des sources qui remontaient au droit romain, mais aussi au droit coutumier médiéval, et puis aux premières législations royales qui sont imposées à partir du XVIe siècle. Et donc moi, je m'y suis intéressé, notamment à travers le cadre d'une juridiction qui était l'amirauté. L'amirauté donc était des juridictions royales locales. Il y en avait dans chaque port du royaume à partir du XVIe siècle. Et c'était une juridiction qui avait une compétence sur toutes les choses de la mer. Tout ce qui relevait de la mer, que ce soit le commerce, la navigation ou la pêche, était de la compétence de ce tribunal. Et donc, qui dit tribunal, dit archives. Et c'est les archives de cette juridiction que j'ai notamment utilisées pour étudier ces usages de la mer.
La mer en commun, le monde de la pêche à Dieppe. Hugo Mermeraine, quelles archives, justement, pour réfléchir à ce monde de la pêche? Parce que nous savons bien que l'histoire qui est écrite dépend des archives dont historiennes, historiens disposent. Et si ce sont des archives juridiques, évidemment, par biais d'analyse, souvent on met le droit en avant. Ce sont beaucoup d'archives juridiques, hein.
Beaucoup d'archives juridiques, effectivement, et beaucoup, on va dire, d'archives qui résultent de conflits ou de litiges ou de controverses qui opposent notamment les populations littorales aux administrations. Et donc, on a souvent des suppliques de ces populations qui réclament ou qui contestent de nouveaux règlements. Et effectivement, ça, c'est une archive, la question de la supplique, et qu'on retrouve déjà à l'époque moderne dans les travaux de Romain, mais qu'on retrouve aussi au 19e siècle et au 20e siècle, avec cette mobilisation, hein, cette capacité de mobilisation des populations littorales qui pratiquent la pêche pour contester les droits qui sont les nouveaux règlements.
Ces populations littorales, c'est ce que sous l'Ancien Régime on aurait appelé les gens de mer, mais même encore après, le nom est resté. Qui sont ces gens de mer, en fait? Comment on peut les identifier? Parce que vous nous avez dit, Romain Granchet, qu'il y a vraiment une définition. On est de ce groupe ou on ne l'est pas. Qui sont-ils?
Écoutez, moi je me suis essentiellement intéressé à trois catégories de gens de mer, essentiellement aux pêcheurs, mais aussi à leur relation avec d'autres acteurs du monde de la pêche. Et donc, ceux qui étaient à proprement parler des gens de mer parmi ceux que j'ai étudiés, donc c'était les matelots et les maîtres qui les employaient. Mais tout l'enjeu de la recherche était aussi d'examiner les relations que ces deux acteurs entretenaient avec un troisième groupe qui est extrêmement important parce qu'il détient les capitaux, qui était celui des armateurs. Et donc, l'objet du livre, c'est un peu d'étudier les interactions entre ces trois groupes d'acteurs à travers les institutions qui organisaient leurs relations dans le cadre du monde de la pêche.
Hugo Vermeuren, vous aussi, hein, vous identifiez ce monde de la pêche comme une zone de contact. Alors, zone de contact de droit, juridique, et puis, on le sait bien, contact humain. Et c'est par définition même une zone de contact entre deux mondes, hein, la mer, la terre.
Entre États aussi, on peut dire, avec cette question de la diplomatie halieutique, et on se rend compte en fait que très tôt, hein, on le constate aujourd'hui, mais la question des frontières maritimes est un enjeu essentiel des relations entre États, et du coup amène des débats entre les États. Moi, j'ai beaucoup étudié les relations franco-italiennes autour de la pêche dans les eaux maghrébines avec l'Italie, qui défendait justement à la fin du 19e siècle cette liberté des pêches, tandis que la France, elle, voulait s'approprier, nationaliser les eaux territoriale et les ressources qui s'y trouvaient.
Ce sont les Italiens à Beaune, 1865-1940, migration méditerranéenne et colonisation de peuplement en Algérie. On se trouve où d'ailleurs avec ce lieu? B.O. Accent circonflexe, N.
Oui, Annaba aujourd'hui, hein, qui est une grande ville de l'Est algérien, pas très loin de la frontière algéro-tunisienne, et qui donc a accueilli une population italienne importante, et qui en fait a été sur la très longue durée un des lieux avec la cale, El Cala aujourd'hui, de pêche du corail rouge.
Ouais, le corail rouge, c'est ça aussi une ressource, parce que quand nous parlons de la pêche, nous pensons beaucoup aux petits poissons, mais il n'y a pas que les poissons, direction les côtes algériennes.
Thank you. Sur la côte algérienne, à 50 km d'Alger, vinrent, voici quelques 70 ans, s'établir quelques pêcheurs siciliens. Chifalo était né. Chifalo depuis a grandi, tout le monde y est français, y vit français, y pense français, mais Chifalo conserve de ses origines l'atmosphère des petits villages de l'Italie du Sud. Chifalo est toujours un village de pêcheurs, Chifalo pêche toujours la sardine. Mais ses habitants ont amélioré au profit de l'économie générale, comme au leur, ce qui était leur métier et leur gagne-pain. Chifalo possède aujourd'hui son usine de conserve. Ainsi vit et prospère une heureuse création qui unit la main-d'œuvre musulmane et européenne. Création qui bande expérience hier pourra être demain l'un des chapitres de l'économie algérienne.
Le journal des actualités françaises en 1946, il faut rappeler que les informations sont encore un peu contrôlées par le pouvoir et il y a comme un petit air de propagande coloniale dans cette archive-là. Hugo Vermeuren, quand on entend quelque chose comme ça, alors bien sûr c'est présenté de manière idyllique et c'est absolument formidable, on sent que se croisent plein d'enjeux humains, bien sûr, les populations et puis économiques. Parce que c'est ça, cette histoire-là, il y a des intérêts d'argent très forts. De toute façon, dès qu'il y a du droit, bien souvent c'est qu'il faut régler d'éventuels litiges ou en tout cas les éviter. Donc c'est souvent des questions d'argent.
Tout à fait. Et il y a deux choses qu'on peut relever peut-être dans ce témoignage. Bon, c'est à la fois l'importance des Italiens dans le développement, on va dire l'implantation d'une population maritime au Maghreb et notamment en Algérie, avec cet exemple de Chifalo, qui est en fait Chefalou, donc un village qui a été fondé par des pêcheurs siciliens de Chefalou. Et puis aussi, on va dire l'emploi, la résurgence d'une population locale berbère, arabe, qui avait subi, on va dire, de plein fouet la conquête, une population maritime qui avait subi de plein fait la conquête française au 19e siècle et qui progressivement à partir de la fin du 19e siècle retourne à la mer, se réapproprie on va dire cet espace et donc la résurgence de techniques là, l'emploi dans les conserveries de beaucoup de femmes notamment et donc cette, on va dire, coexistence, enfin des espaces partagés.
Oui, et puis avec une immigration italienne que l'on n'imagine pas en Algérie, ou en tout cas on n'y pense pas, mais l'étude de la mer permet d'aller bien au-delà de la mer, permet d'étudier les mouvements, les populations, les migrations aussi. C'est en cela que c'est intéressant de se pencher sur l'étude de la mer, c'est pas simplement regarder la manière par laquelle on pêche les poissons.
Oui, on peut dire en fait qu'une grande majorité de la population pieds-noirs, française d'Algérie, a des origines soit espagnoles, soit italiennes, et que en fait l'origine italienne, elle est très liée à cette histoire de la pêche, et notamment la pêche du corail, avec une volonté de la France au 19e siècle de installer cette population italienne de pêcheurs pour à la fois développer l'industrie de la pêche du corail, mais aussi pour implanter une population maritime. Et donc il y a toute une politique qui est menée de protectionnisme pour à la fois sédentariser cette population, servir la politique de peuplement français, et puis en même temps, on va dire, les naturaliser progressivement, et donc voilà, faire le lien entre le droit de pêche et la nationalité.
Est-ce dur de pêcher le corail ? Faut plonger pour pêcher le corail, j'imagine. Hein ?
Non, alors en fait, à cette époque, on utilise des techniques, notamment la croix de Saint-André, qui est un engin qu'on manie sous mer, et qui d'ailleurs impose une connaissance très précise des fonds marin, et du coup cette technique très destructrice va être progressivement interdite à la fin du 19e siècle.
Et oui, parce que parler de la mer, c'est parler de beaucoup de choses en réalité. Il y a le sur la mer, il y a le dans la mer, et puis il y a les fonds marins. Romain Granchier, quand on regarde un peu cette histoire des mers et la manière dont elle a été écrite, on se rend compte qu'en fait c'est une préoccupation sur un temps très long, parce que la mer, elle est préoccupation de manière effective par les autorités sans cesse, et dès lors, le regard porté sur le passé, c'est toujours présent. Il y a vraiment une grande historiographie autour de la mer.
Oui, c'est quelque chose qui a été étudié de très longue date, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, dès le XVIIIe siècle, les premiers administrateurs qui deviennent des experts en matière de pêche, qui sont nommés par le roi pour aller réguler les pratiques, en parallèle, se mettent à avoir des activités d'écriture et eux-mêmes à essayer de faire l'histoire de cette activité. C'est le cas, par exemple, d'un inspecteur général des pêches qui est nommé dans les années 1720 pour aller dresser des procès-verbaux dans tous les ports de pêche pour déterminer détailler très précisément les techniques employées, les populations qui se livraient à cette activité, et qui, en parallèle de cette activité administrative, entreprend l'écriture d'une vaste histoire générale des pêches, pour laquelle il mobilise les réseaux consulaires, donc un peu les ambassades françaises dans d'autres parties du monde, pour se faire livrer des mémoires sur la manière dont on pêche dans les Antilles, sur les côtes africaines, et essayer donc de compiler tout ce savoir sur l'histoire des pêches.
Comment s'appelle-t-il ?
François Lemasson du Parc.
Si les pêches des harengs et des maquereaux, dont les raies ne prennent que des poissons passagers, ne peuvent jamais faire aucun tort au général de la pêche, il n'en est pas de même de la drague. Il serait inutile de répéter ici ce qu'on a observé sur l'abus de cette pêche et la nécessité qu'il y aurait à la supprimer ou du moins à diminuer le grand nombre de bateaux qui la pratiquent. Les pêcheurs qui font cette pêche toute l'année se servent des mailles trop petites et chargent le bas de leur filet de beaucoup plus de pesanteur de plomb qu'il ne leur est permis, sans que personne y donne ordre. La drague détruit donc tous les poissons qu'elle trouve en son passage, alors que les pêches flottantes, dont les mailles du filet restent toujours ouvertes, n'en peuvent prendre que d'une grosseur proportionnée à la grandeur du calibre de leur raie. Ainsi, ils ne peuvent détruire les fonds, puisqu'ils ne tombent dans l'eau que de quelques brasses au plus.
Raphaël Lalonde, dans le cours de l'histoire, qui lisait ce procès-verbal de la visite faite dans l'amirauté de Dieppe par François Lemasson du Parc, inspecteur général des pêches. Nous étions en 1724. Hugo Vermeuren, ça rappelle exactement ce que vous disiez sur un autre espace et une autre période, c'est-à-dire la Méditerranée, bien plus tard au 19e et même au 20e siècle, c'est-à-dire la préoccupation de détruire les fonds marins. Donc là, on a quelque chose qui vous unit, même si on passe de Dieppe jusqu'aux côtes algériennes.
Oui, ce que montrent les travaux de Romain notamment, hein, c'est que ces préoccupations pour, on va dire, la raréfaction du poisson et la destruction des fonds marins, en fait, est ancienne, selon évidemment un autre vocabulaire et puis d'autres enjeux, puisqu'il y a toujours cette idée, hein, derrière la préservation des environnements, de maintenir en fait des activités économiques. Et effectivement, au 19e siècle, on a ce registre-là, avec peut-être l'invention de nouveaux outils. On va en parler peut-être tout à l'heure avec Romain, des zonages, des frontières, l'interdiction aussi, la création de nouveaux outils peut-être plus respectueux, notamment il y a toutes les controverses autour du chalutage de fond qui sont déjà très anciennes, et donc c'est aussi un peu un fil rouge, cette question du chalutage jusqu'à aujourd'hui.
Oui, les questions environnementales sont souvent présentées comme des questions très contemporaines, une prise de conscience récente. Romain Ganchet, quand on regarde, mais non, c'est vraiment sur le temps long. Le cas du chalut, par exemple, c'est un excellent exemple. C'est une très vieille question, une très vieille polémique d'ailleurs.
Oui, oui, en effet, c'est une la première mention de cette technique dans les sources, dans les archives, elle remonte à une supplique, à encore cette source dont parlait Hugo tout à l'heure, une supplique adressée au roi d'Angleterre au milieu du XIVe siècle, de la part d'une communauté de pêcheurs qui se plaint que la communauté voisine emploie un filet traînant, donc un filet qu'on tracte avec un bateau et qui a la caractéristique donc de traîner sur les fonds, et ils s'en plaignent parce que eh bien ça détruit les fonds, donc ça arrache notamment les algues, et ils considèrent que les poissons se reproduisent dans ces algues, donc il faut les ménager, en prendre soin. Et puis, par ailleurs, c'est un filet qui est très peu sélectif, et dès cette époque-là, il y a cette idée de prise accessoire, qui est aujourd'hui l'un des concepts clés de la science halieutique, l'idée que quand on pêche, eh bien, on pêche l'espèce que l'on cible, mais que par ailleurs, on détruit tout un autre ensemble de poissons qui n'ont pas forcément la bonne taille ou qui ne vont pas pouvoir être commercialisés. Et cette question, cette notion de prise accessoire, elle est déjà formalisée dès le XIVe siècle, et vont suivre, au cours des siècles suivants, des réglementations pour essayer d'affronter cette problématique des arts traînants.
Avec des acteurs dans cette histoire-là, qui a intérêt à utiliser des chaluts et qui a intérêt à ce que les chaluts ne passent plus parce qu'ils détruisent les fonds marins. On a des tensions ici très nettes, donc j'imagine que ce sont les armateurs les plus riches qui ont envie de chaluts.
Eh ben alors, pas forcément. Ça dépend vraiment d'une communauté. Enfin, ça dépend d'une communauté à l'autre, et aussi pas mal de la nature des fonds, dans la mesure où le chalut peut être employé uniquement sur des fonds sableux relativement unis, et va avoir tendance historiquement à se développer principalement dans les zones où il pouvait être employé. Après, c'est vraiment une question compliquée. Et par exemple, dans le livre, je pars d'un événement qui est un affrontement qui a lieu en 1818 dans le port de Dieppe, où pendant plusieurs jours, des pêcheurs de Dieppe, mais aussi leurs femmes et toute la population maritime, les gens de mer, s'en prennent à des pêcheurs venus d'un autre port, de Honfleur, au sud de la Seine. Ils les appellent les pêcheurs des côtes du sud. Ils les considèrent comme des étrangers, entre guillemets, donc c'est dans les sources. Et ils s'en prennent à eux parce que justement, ces pêcheurs du sud ont pris l'habitude d'utiliser cette nouvelle technique et de l'utiliser toute l'année et en plus de venir chaluter sur des fonds qu'ils considèrent comme étant leur propre fond de pêche. Et c'est intéressant parce que, par exemple, les pêcheurs d'Étretat, donc moi j'ai étudié l'émeute qui se produit à Dieppe, mais les pêcheurs d'Étretat, pour protéger leur territoire et empêcher ces chalutiers de venir y traîner leur filet, sont allés immerger des énormes blocs de pierre pour que les chaluts s'abîment lorsqu'ils sont traînés sur les fonds. Et c'est d'autant plus intéressant que ça rappelle des pratiques actuelles. Par exemple, Greenpeace a fait ça cette année, puis aussi l'année dernière, dans certaines aires marines protégées, immerger des énormes blocs de roches pour empêcher les chalutiers d'aller y traîner leur filet et faire respecter donc le statut de protection de ces aires marines.
Mais on retrouve quelque chose que vous évoquiez avec les coraux méditerranéens, parce que là aussi, des acteurs ont intérêt à arracher les coraux, c'est pour en faire le commerce, et c'est pas du tout l'intérêt d'autres.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, ça oppose aussi, on va dire, des mannes financières qui sont tout à fait différentes. Il faut imaginer, par exemple, que le corail, hein, rouge, qui n'est pas une pêche nourricière, mais une pêche spéculative, qui alimente un marché, on va dire, de la joaillerie au niveau international. Souvent, le corail rouge est transformé en Italie, donc par des négociants qui possèdent des usines, qui font travailler des milliers d'ouvrières, notamment 4000 pêcheurs aussi dans les années 1860. 1870, donc pour l'État italien, ça représente une manne financière extrêmement importante. Et de fait, hein, ce sont des intérêts qui pèsent par rapport à des pêches, on va dire, plus artisanales, plus locales, qui évidemment représentent des intérêts moindres économiquement.
Oui, parce que ici, cette question du corail nous permet de réfléchir vraiment à ce que ça signifie, le fond marin, mais surtout à cette économie qui nous fait traverser les océans, bien sûr, les mers, et partir d'un pays à l'autre. Le corail, on le pêche à un endroit et il est transformé à un autre.
C'est en cela cependant que consiste la pêche. Accrocher et décrocher les filets, voilà le travail pénible dont nul n'aura l'idée s'il ne fait que passer auprès des corailleurs en pêche. Pour juger des efforts et des fatigues de ces malheureux, il faut avoir séjourné plusieurs jours à bord. Alors on se rendra un compte exact de ce qu'est réellement l'état de pêcheur de corail. Les matelots sont presque nus, ils ne conservent qu'un caleçon. Leur peau brûlée, noircie par le soleil, leur donne une physionomie rude et étrange. Ils chantent cependant pour s'exciter les uns les autres. Leur travail se fait de deux manières. Tantôt leurs efforts sont continus, et alors ils s'entraînent réciproquement par un sifflement particulier qui peut se rendre par les syllabes « tsi tsi », sifflé pour ainsi dire avec les dents serrées. C'est en assistant à la manœuvre faite au chant du car rigolo que l'on comprend bien les fatigues des pêcheurs, avec ce sentiment parfait du rythme musical qui caractérise les Italiens.
C'est le docteur Henri Lacasse Dutier, en 1864, qui s'intéresse à l'histoire naturelle du corail, organisation, reproduction, pêche en Algérie, industrie et commerce. C'est Raphaël Laloum qui nous lisait ce texte. Avec Hugo Vermeuren, ici, l'attention portée sur les personnes. Parce que c'est cette histoire, on a évoqué le droit et le droit suinte dans tout ce que l'on dit, on évoque ces différentes tensions, puis il y a ces gens aussi. C'est un métier très dur, là, pêcheur de corail, quand on l'entend ici, alors c'est bien, on est au soleil, il dit bien, mais il a la peau brûlée, le pêcheur de corail.
Oui, Henri de Lacasse Dutier, hein, qui est à cette époque-là professeur de zoologie à l'université de Lille, qui part en mission en Algérie pour étudier le corail rouge et qui non seulement fait une étude de zoologie, d'anatomie du corail très importante, hein, qui est encore aujourd'hui précieuse pour les scientifiques, mais qui surtout donne une attention aux pêcheurs et au corps, à la manière de travailler, qui s'embarque, hein, avec les corailleurs et qui nous donne un témoignage très important sur cette manière de pratiquer la pêche du corail. Et effectivement, on dit dans les sources hein, qu'il faut avoir tué ou volé pour être corailleur. Et on assimile le pêcheur de corail à quelqu'un qui n'a pas de connaissance de la mer, mais qui est simplement une force de travail. Et seul le capitaine, le patron, celui qui sait où se trouvent les bancs de corail et qui oriente la croix de Saint-André, a une connaissance précise, un savoir précis de ce qu'il y a sous les eaux.
Oui, dépossession du savoir, parce que voilà, on devient d'un seul coup un simple travailleur. Est-ce qu'on trouve le même phénomène, Romain Ganchet, avec les chaluts, avec les chalutiers? C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui sait, qui conduit le bateau, alors que bah, les autres, ils sont juste là pour remonter le filet.
Effectivement, c'est une des critiques adressées par les adversaires du chalut à cette technique, à savoir celle de réduire les pêcheurs à de simples salariés, à une simple force de travail, et l'idée que le chalut, il y a uniquement à le mettre à l'eau et puis ensuite à le haler, ce qui est un travail extrêmement pénible, qui notamment engendrait beaucoup de hernies, de problèmes musculaires et de dos. Mais cette idée que c'est uniquement un travail de force et que toute la question des manœuvres extrêmement compliquées dans les autres pêches, sont perdues et que c'est une pratique qui nécessite beaucoup moins de compétences que les autres pêches très diversifiées qui étaient en pratique auparavant.
Alors oui, d'ailleurs, ces pêches diversifiées, si on prend le cas de Dieppe que vous connaissez bien, donc on évoque le chalut, ça c'est une chose. Il y a cette rivalité avec la pêche traditionnelle. Quelle est-elle d'ailleurs, cette pêche traditionnelle?
À Dieppe, il y avait deux organisations de la pêche qui étaient toutes les deux des organisations saisonnières, et le principe c'était une complémentarité entre différentes techniques et différentes saisons de pêche au fil de l'année. Et donc dans le cas de Dieppe en particulier, il y avait deux communautés, il y avait les grands pêcheurs qui se livraient aux deux principales grandes pêches, qui étaient la pêche du hareng pendant l'hiver et la pêche du maquereau pendant l'été, qui étaient des pêches qu'on disait salées parce que c'était des poissons qu'on salait pour pouvoir le conserver. Et entre ces deux grandes pêches, ces grands pêcheurs se consacraient à d'autres pêches, dont la pêche du chalut, enfin un ancêtre du chalut qu'on appelait la drège. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas opposés foncièrement à cette technique, mais à l'idée, justement, qu'on ne respecte pas le calendrier saisonnier, les usages qui s'étaient mis en place pour organiser la complémentarité entre ces différentes activités. Et donc là, on voit que cette question du chalut, on lui reproche, ces pêcheurs lui reprochent de dépeupler les fonds, mais on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça touche à tout un ensemble d'usages qui se sont progressivement développés par le passé et qu'il s'agit de faire respecter.
Retour de pêche.
Il fait vraiment pas chaud l'hiver. Hein.
La pêche était
à terre, ça va, là, du beau soleil, voilà, l'hiver, la nuit, c'est pas pareil. Hein. Faut se le farcir.
Dis donc, Pierre, la pêche,
c'était hein? Ouais, la pêche, c'est bon. Voyant, enfin, il y a mieux, il y a pire, quoi. Bon. Faut se contenter de ce qu'il y a. Hein.
Bien, il n'y a pas eu trop mauvais temps, non?
Ouais, un petit peu, et puis là, pour en revenir, on a eu mauvais temps pour en revenir, et puis ça, voilà. Il y a...
Vous ne le voyez pas beaucoup, votre mari, en ce moment?
Non, on le voit que, pour ainsi dire, le samedi et le dimanche et tout. Alors, c'est repartir, rentrer, partir.
Là, vous le croisez simplement?
Simplement, oui. Alors, quand il est à la maison, c'est pour se laver, manger, se reposer un petit peu, puis reprendre les butuailles et repartir. Voilà, il y a 35 ans qu'on est ensemble. Je suis mariée, ça fait 35 ans, on fait ce métier.
Nous étions au Tréport en 1978 avec cette pêche au hareng. Oui, d'ailleurs, ça permet d'évoquer aussi ce monde, ces gens de la pêche. Ce ne sont pas uniquement les gens qui vont sur les bateaux, c'est l'ensemble de la société qui est concernée. Hugo Vermeuren, d'ailleurs, dans le monde méditerranéen, on va retrouver ce même phénomène du départ du marin et de sa femme qui l'attend, qui est un cliché mais bien ancré dans notre imaginaire.
Oui, c'est un élément effectivement qui se retrouve évidemment sur les littoraux maghrébins. Après, c'est vrai qu'on manque beaucoup de témoignages sur, on va dire, la vie familiale, le quotidien et l'organisation aussi des armements à terre et puis de la pêche, du marché. Voilà, il faut à la fois, il y a une mer d'archives hein, sur la question de la réglementation et autant on est un peu à sec pour ce qui concerne, on va dire, la vie quotidienne et l'organisation du travail de la pêche. Mais on ne désespère jamais hein, quand on est historien. moyens de trouver des sources peut-être pour documenter cela. J'aime bien quand on parle de hareng avec Romain parce que on a réglementé le hareng en Algérie, la pêche du hareng jusque dans les années 1880, alors qu'il n'y a pas de hareng dans les mers algériennes. Et donc c'est rigolo de voir que finalement souvent la question des réglementations, elle pose la question de la connaissance, plutôt de la méconnaissance scientifique de la mer, et que souvent on impose, on applique, on importe des réglementations qui en fait ne sont pas adaptées au milieu que personne n'a encore étudié.
Ouais, parce que quand on regarde, c'est vrai, les cartes, on voit tant et tant d'espaces très différents, et c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, quand on vous fait intervenir tous les deux avec des travaux sur des espaces différents et des périodes d'ailleurs légèrement différentes, c'est de voir que c'est très commun, et on les entend ici. Dans le cas du hareng, bien sûr, nous sommes plutôt, alors là, faut aller un peu plus dans le nord, mais il y a quand même... L'acteur, plutôt l'actrice principale de cette histoire, c'est la morue. On ne l'a pas citée encore, mais voilà, je donne le nom. Et à partir de là, Romain Granchet, vous développez, parce que la morue, c'est quand même le grand phénomène.
Alors, la morue, c'est effectivement le grand phénomène suite à la découverte à la fin du XVIe siècle des fameux bancs de Terre-Neuve. Et à partir de cette période-là, chaque année, un certain nombre de ports français, mais aussi basques, anglais, vont armer de gigantesques bateaux pour aller exploiter cette ressource qu'on trouvait vraiment à foison dans les eaux au large du Canada et de Terre-Neuve. Et donc c'est vraiment une ressource alimentaire qui débarque sur les marchés européens et qui a joué vraiment un rôle très important. Il y a des historiens qui se sont intéressés à documenter l'impact réel de ce que ça représentait, cette ressource, et qu'on montrait que en termes alimentaires, c'est vraiment sur deux ou trois siècles un apport en protéines très important. Ça a un effet sur les régimes alimentaires parce que plus de protéines, c'est aussi plus d'énergie. Et puis par ailleurs, qu'on essayait de comparer avec le poids de l'or et des métaux précieux qu'on est allé chercher à la même période dans le Nouveau Monde, et qu'on montrait que c'était pas non plus comparable, mais tout de même pas si loin, et qu'il y avait un poids économique de la morue qui était vraiment fondamental.
Avec l'idée à ce moment-là que c'est une ressource infinie, ou est-ce que déjà on voit poindre des remarques, parce qu'on l'a bien dit, hein, le chalut qui peut détruire les fonds marins. Vous avez évoqué le XIVe siècle pour les premières contestations de la chose. Quant à la morue, à partir de quand on voit apparaître l'idée que, attention, il faut peut-être se méfier dans ce qu'on fait ?
Il y a vraiment cette idée très très ancienne de la pêche qui peut engendrer la dépopulation de la mer. Mais effectivement, il y a différents cas de figure, et ça s'applique plutôt à des espèces sédentaires, des poissons de fond qui vont habiter certaines parties des côtes, et qui des fonds qui vont pouvoir être surexploités et entraîner ce qu'on appelait des disettes du poisson. Il y avait des problèmes de disette de certains autres poissons migrateurs, comme la morue, le hareng, la sardine. Mais là, clairement, c'était des phénomènes beaucoup plus liés à des causes naturelles, climatiques. Et en fait, la morue, on s'inquiète pas de son déclin avant, disons, le XXe siècle. Parce que c'était un poisson qui était extrêmement, extrêmement abondant.
Est-ce qu'on retrouve le même phénomène dans le monde méditerranéen avec l'idée que certains poissons risquent d'être menacés ?
Oui, tout à fait. En fait, on retrouve les mêmes configurations. Bon, ça concerne d'autres espèces, hein, notamment par exemple la sardine. Et à la fin du 19e siècle, il y a des périodes, des années en fait, où ce poisson qui est plutôt un poisson qui bouge, hein, qui n'est pas forcément... Bon, on parle de poisson bleu, poisson migrateur, effectivement, qui n'arrive pas dans les eaux. Ça marche aussi pour le thon rouge. Et donc, du coup, effectivement, ça crée des inquiétudes, des angoisses auxquelles finalement les autorités n'ont pas de réponse. Et donc évidemment, il y a une augmentation du prix du poisson, ça déstabilise les marchés locaux et ça engendre bien des crises, voire des reconversions hein, de certains pêcheurs qui sont obligés d'abandonner la pêche à la sardine pour se reconvertir dans d'autres industries, voire devenir salariés des grands chaluts. Et donc voilà, ça déstabilise évidemment.
Est-ce que cela est mis en relation avec l'amélioration des techniques de pêche ? Il y a cette conscience là où il y a l'idée de dire bon, on est de plus en plus nombreux à pêcher, donc c'est ça qui explique qu'il y a moins de sardines. Ou alors on se dit non, ce sont des gros bateaux qui viennent d'on ne sait où, d'ailleurs parfois de loin, et qui eux font des dégâts.
Oui, en fait, l'importation de nouvelles techniques, et notamment, bon, en Algérie, c'est un chalut qui s'appelle le bœuf, qui a été introduit par les pêcheurs italiens et espagnols. Donc, un filet chalut qui est tiré par deux bateaux, le principal artrainant qui alimente à la fin du 19e siècle 80% du marché, et qui du coup est extrêmement important économiquement, mais qui concerne très peu d'armement, finalement très peu de bateaux, et qui est accusé de dépeupler et d'abîmer les fonds, qui impactent en fait une majorité du reste des petits pêcheurs.
Avec cette idée que le bateau vient de loin, parce qu'on l'a bien entendu avec le chalut hein, tout à l'heure, le chalut, ce n'est pas obligatoirement le navire qui est rattaché au port. Là, on le voit passer, mais il n'est pas d'ici ce bateau-là. L'idée du lointain aussi, ça joue, vous avez évoqué tout à l'heure, Romain Granchet, l'idée d'étrangers, ce sont des étrangers.
Oui, oui. Mais il y a quand même une, dans les sociétés d'Ancien Régime et dans ces sociétés de la pêche en particulier, une idée du commun, de la communauté qui est extrêmement forte, et des intérêts particuliers à cette communauté qu'il s'agit de défendre à la fois vis-à-vis de l'État royal qui va appliquer des réglementations, donc en négociant l'application de certaines législations, et puis aussi vis-à-vis des autres communautés se réserver certaines zones de pêche dans certains cas, même s'il y a ce principe de la liberté de la pêche en théorie. Le roi est censé faire respecter ce principe, mais il y a quand même des communautés qui essayent de se réserver des petites portions de côte, notamment toutes ces mers fermées, les baies, qui se prêtent beaucoup plus par leur configuration géographique à ce type d'appropriation un peu illégale. Et puis, il y a l'idée aussi de se réserver l'accès à certains marchés. Dans le cas de Dieppe, il y avait un enjeu qui était l'accès au marché de Paris, parce que entre Dieppe et Paris, il y avait des systèmes de transport, notamment ce qu'on appelait les chasse-marées, qui étaient des voitures attelées qui permettaient de transporter le poisson extrêmement rapidement. Et donc, pour Léon Fleuret qui pêche au chalut, il y a aussi l'enjeu d'accéder au marché. Et d'ailleurs, ils installent une communauté à Dieppe qui leur sert de relais pour revendre leur poisson.
Avec tous ces réseaux qui se mettent en place, on l'a bien entendu tout à l'heure, hein, dans le cas des côtes algériennes, nous partons en Italie. Est-ce que vous avez pu repérer des tensions entre les différentes communautés ? Alors, nous avons des Italiens, nous avons évidemment ces populations qui sont installées ici depuis longtemps, puis les Français qui arrivent. Il y a des tensions entre les communautés ?
Oui, tout à fait. Enfin, les Italiens sont véritablement accusés en Algérie de monopoliser la pêche et puis de détruire les fonds marins. En même temps, ils sont pour l'essentiel, ce sont eux les marins pêcheurs. Il y a très peu de Français qui pêchent. Il y a des tentatives d'implanter des villages de pêcheurs français, notamment des Bretons, des Corses, des Provençaux. Mais tous ces projets-là, on va dire, échouent. Et de fait, il y a une xénophobie très forte à l'encontre des Italiens, aussi parce qu'en fait on ouvre la naturalisation aux étrangers, que les Italiens et les pêcheurs italiens se saisissent pour avoir le droit de pêche, mais en fait ne résident pas, il est vrai, forcément dans la colonie en Algérie, et donc du coup sont accusés d'être des hirondelles des mers, de venir piller, mais en même temps de ne pas faire profiter. Voilà, on retrouve toutes ces mécaniques effectivement au fait qu'il y a même à la fin du 19e siècle un projet de loi qui est déposée à la Chambre des députés pour justement dénaturaliser ces pêcheurs italiens d'Algérie par Morino, qui est un député anti-juif, on dit à cette époque, d'Alger.
Voilà, avec toutes ces tensions qui se croisent sur les littoraux, sur les mers, nous les évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, puisque l'histoire a la pêche.
Tanguer les marins, rouler les tonneaux, pleurer les embruns. Voici que soudain la mer en furie vient d'avoir son grain de folie. Si tu es malade, la mer, si tu es malade, il faut te soigner. Si tu es malade, la mer, vieille camarade, il faut te coucher. Nous saurons te faire avec tes galets et tes algues claires un bon lit douillet. Si tu es malade, la mer, si tu es malade, fiche-nous la paix. Ici, l'on n'est point pour se promener, peigner les oursins, mais bien pour pêcher, et sans un filet, jamais on travaille. Tout comme un croisé, son côté d'imaille. Si tu es malade, la mer, si tu es malade, il faut en finir. Si tu es malade, la mer, vieille camarade, il faut te guérir. Douces et gentilles, aux longs cheveux d'or, de fort belles filles nous attendent au port. On n'est pas malade, nous autres, on n'est pas malade et l'on a 20 ans.
Éric Amado, en 1954, La Complainte des marins pêcheurs dans Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique François Saint-Jour et aujourd'hui l'histoire à la pêche. Comment écrire l'histoire des mers, des gens de mer, avec ici aussi l'histoire de la possibilité de faire changer les choses. Parce qu'on entend bien que la conscience est ancienne, qu'il faut protéger les mers, les fonds marins, toutes ces réserves. Ça se négocie, ces choses-là, parce que, Hugo Vermeren, vous nous disiez que un droit venu de France est appliqué sur la colonie algérienne, très bien, que parfois avec une forme de ridicule, parce qu'il y a une législation sur les harengs, alors qu'il n'y a pas d'harengs dans la mer. Mais est-ce qu'à un moment, on essaye d'adapter les choses en se disant, faut écouter quand même les gens qui pêchent?
Oui, il y a un processus de négociation qui est permanente aussi parce qu'il y a des grandes enquêtes qui sont produites au niveau, par exemple, en Algérie au début des années 1860, en Italie dans les années 1870, il me semble, ou début des années 80, mais qui du coup consultent en fait les différents acteurs, les armateurs, les patrons, les pêcheurs, les administrateurs maritimes, et qui du coup essayent de faire la conciliation entre les différents intérêts. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut évidemment voir que entre la loi et son application, il y a toujours une distance. Et c'est aussi une singularité, c'est-à-dire que par exemple, on peut parler de la loi du 1er mars 1888 qui interdit en fait les eaux territoriales aux pêcheurs étrangers sur les côtes françaises, mais aussi d'Algérie, et qui du coup dans son application, eh bien, réserve un certain nombre d'exceptions et qui de fait, notamment par exemple sur l'accès au rivage, pour essayer de permettre, pour donner la possibilité aux pêcheurs notamment de bénéficier de certaines clauses du droit maritime international.
Avec des échos à ce que vous pouvez étudier, Romain Granchet, sous l'Ancien Régime, particulièrement à Dieppe, mais pas seulement. L'idée, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui traverse les siècles, que la loi, c'est une chose, l'application de la loi, c'en est une autre. Alors, cette mer en commun, cette possibilité laissée par l'autorité royale d'aller pêcher, on voit bien que c'est complexe. Quand un chalut vient de loin et s'approprie les richesses, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a quand même des formes de résistance qui aboutissent quand même à récupérer les communs?
Bah, oui, il y a des formes de résistance qui aboutissent. Moi, j'ai parlé de particularisme juridique. Alors, c'est un terme un peu ronflant comme ça, mais pour montrer que chacune de ces communautés parvient à faire adapter la loi à ses propres intérêts particuliers, à ses côtes, en fonction des ressources qu'elle exploite. Et donc, par un jeu de négociation qui passe par des pétitions à l'adresse des autorités, arrive à faire adapter donc la législation. Et on peut aussi prendre le cas du chalut dans la très longue durée, parce que c'est intéressant, on passe d'une logique d'interdiction, c'est une technique dangereuse, il faut l'interdire. Dès le XVIe siècle, c'est réitéré par une déclaration pour le rétablissement de la pêche en 1726. Et 3 ans plus tard, cette déclaration royale, en fait, on revient dessus parce qu'on s'aperçoit qu'il y a trop de communautés qui en pâtissent. Et on entre dans une nouvelle phase qui est plutôt une phase de « on va réglementer le chalut, on va faire en sorte qu'il soit pas trop destructeur, on va décider qu'on peut l'employer dans telle zone et pas dans telle autre ». Mais ça, s'engage un processus aussi de normalisation, parce que si on réglemente, on accepte que la technique soit employée. Et puis le dernier temps, c'est à partir du Second Empire, dans les années 1860, où là, on passe à une logique de libéralisation totale. On a le droit d'utiliser le chalut n'importe où, sauf si certaines communautés de pêcheurs trouvent que dans certaines zones, ça peut impacter la ressource, nuire à la reproduction. Et donc là, il y a vraiment, ça montre la complexité de ces questions environnementales. C'est-à-dire, il y a un consensus sur le fait que c'est destructeur, mais une prise en compte des enjeux économiques et sociaux qui sont liés à cette technique.
Ah bah, souvent, on dit que l'histoire fait écho au présent. C'est une belle illustration.
Ce que montrent, je crois, les travaux de Romain et des historiens des pêches, c'est aussi la capacité de mobilisation de ces populations. Et c'est vrai qu'en France, il y a certaines institutions professionnelles, je pense aux prud'homies de pêcheurs, qui ont été étudiées par des historiens comme Daniel Fagé, qui du coup mettent en avant la capacité de ces corporations professionnelles à mutualiser en fait leurs forces pour faire appliquer et adopter un certain nombre de règlements.
En tout cas, il ne faut pas rester dans sa coquille.
À l'île d'Oléron vont se dérouler à partir de samedi les grandes fêtes du centenaire de l'industrie ostréicole. La fête des huîtres et la fête d'Oléron et de tout ce qui provient de l'île. Apprenez au passage que les huîtres sont de très vieilles dames appartenant à une race d'un demi-siècle. Leur culture aurait été inventée par les Chinois, les Grecs et les Romains auraient suivi l'exemple. En France, il a fallu attendre le Second Empire pour que soit enfin créée une industrie valable. Et voici donc les collecteurs. Il y en a de différentes sortes, pieux d'ardoise, tuiles et bien d'autres. Là se pose le naissin, la petite huître à former. Auparavant, les collecteurs ont été nettoyés au cours de l'opération d'étrocage. Actuellement, 2500 hectares de parcs sont exploités, faisant vivre une population de 2000 personnes et fournissant 38% de la production française, soit environ 300 millions d'huîtres.
Un reportage sur la culture de l'huître, c'est FR3 Midi Atlantique en 1965. Une vieille dame, l'huître bien sûr. Une culture pas si vieille que ça, quand on l'entend, c'est le Second Empire. On dira jamais, c'est tout ce que l'on doit au Second Empire, mais c'est, voilà, c'est les années 1850-1860.
Oui, l'ostréiculture, elle est associée à la figure de Victor Coste, qui était un biologiste, qui avait une chaire au Collège de France, et qui est connu dans l'historiographie pour avoir été l'inventeur de l'ostréiculture en France dans les années 1860. Dans les années 1860, en réalité, il y avait eu plein d'expériences passées, c'est ce que disait votre archive sonore, dans différentes parties du monde. Et d'ailleurs, Victor Coste, avant d'introduire la culture de l'huître en France, a fait un voyage sur les côtes d'Italie où il est allé essayer de découvrir les techniques employées par les Romains plusieurs siècles auparavant. Cela dit, donc l'ostréiculture, en fait, c'est quelque chose de très récent, mais auparavant, on consommait déjà des huîtres, et très abondamment, au moins depuis le 17e siècle, c'était un produit qu'on trouvait dans la plupart des grandes villes des pays européens, notamment. Et pendant longtemps, en fait, on l'a pêché. On draguait ce qu'on appelait des huîtrières, des bancs d'huîtres naturels qui se trouvaient au large des côtes, et donc on les pêchait à la drague.
Comment étudier l'huître ?
Comment étudier l'huître ? De façon forcément un peu interdisciplinaire. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler d'un projet commun avec Hugo Vermeuren ici. On est en train d'essayer de monter un projet pour étudier l'histoire de l'huître plate, donc qui formait le long des côtes européennes et aussi en Afrique du Nord de vastes récifs qui ont été complètement détruits au 19e siècle et puis au début du 20e siècle à cause de la surpêche, mais aussi de la pollution et d'autres facteurs. Et avec une équipe d'archéologues, d'écologues et de biologistes, on essaye de faire une histoire donc de ces récifs extrêmement riches d'un point de vue biodiversité, pour aussi essayer d'éclairer le présent dans la mesure où il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui de par le monde et en particulier en Europe pour reconstruire, restaurer ces bancs d'huîtres qui remplissent tout un ensemble de fonctions écosystémiques comme on dit aujourd'hui.
Hugo Vermeuren, donc on retrouve vos huîtres, ces huîtres aussi en Méditerranée, avec la volonté d'étudier, ce sont tous ces projets de recherche, ces mondes, et je l'utilise vraiment au pluriel ce mot-là, parce qu'il y a les huîtres bien sûr, il y a tous ces animaux aussi qui sont là, qui sont pêchés, ou pas obligatoirement pêchés.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi les mammifères marins notamment et le commerce du vivant, c'est-à-dire que aussi les poissons, hein, mais il y a aussi un phénomène qui se développe au 19e siècle, c'est celui de la foire, du zoo, de la ménagerie, et du coup la capture d'animaux vivants pour alimenter aussi les aquariums. Et donc ce sont des chantiers nouveaux pour ce qui concerne les animaux marins. En l'occurrence, en Algérie, l'animal symbolique, c'est le phoque moine de Méditerranée, hein, qui était très présent sur les côtes et qui a été abondamment chassé, capturé par les pêcheurs pour alimenter eh bien, les jardins zoologiques de métropole, mais aussi les ménageries et les poissonneries pour attirer le chaland.
C'est-à-dire quoi un projet de recherche? C'est-à-dire que là, on se met tous en ordre de bataille, les différentes disciplines, pour étudier cette question-là, parce que ça pourrait être l'étude réalisée comme une monographie, l'étude du phoque moine, etc. C'est un très beau titre de thèse. Et comment ça se construit un projet de recherche?
Sur des milieux aussi complexes que le milieu marin, il est nécessaire en fait d'avoir des compétences multiples, et donc l'interdisciplinarité permet justement de mutualiser les approches, de partager les expériences de terrain, de discuter aussi des indicateurs, des sources que l'on utilise. Et c'est vrai que les écologues, les biologistes, les savants du contemporain ont aussi besoin des historiens pour comprendre comment étaient configurées les ressources qu'ils étudient et les milieux qu'ils étudient par le passé et comment ils étaient traités par l'homme.
Et puis tout au fond de l'eau, bien souvent, il y a les algues.
Que peut-on faire avec des algues?
Des tas de choses. Il est certain que certaines algues se prêtent aux fabrications de textiles. Sur une très grande échelle et à très bon compte. Mais on peut faire des tas d'autres choses. Les algues fourniront des matériaux de construction préfabriqués. Des maisons seront construites en algues dans l'avenir.
Et puis la fourrure des phoques?
Ah oui, ça c'est une question qui a été traitée par des Américains, qui laisse sceptiques beaucoup de gens. Mais je crois qu'on pourra organiser dans un avenir lointain encore l'élevage de certaines races de phoques dont la fourrure est inappréciable.
Alors en somme, pour résumer, du pétrole, des algues et la chair des poissons. C'est
oui.
Déjà beaucoup, sans compter d'autres.
La chair des poissons, je crois que la pêche sera, dans un avenir que j'ignore, remplacée par l'élevage sous-marin.
Jacques-Yves Cousteau, en 1947, le commandant Cousteau, bien sûr, on retrouve vos phoques ici. Et on a, dans ce moment de la recherche historique, c'est-à-dire aujourd'hui sur ces mondes marins, ces univers-là, vraiment beaucoup d'écho avec le contemporain, on l'a dit, hein, l'histoire environnementale nous a montré que les préoccupations actuelles, qu'on présente souvent comme actuelles, sont en réalité anciennes. Qu'en est-il des fonds marins? Parce que étudier le littoral, le rivage, la mer, c'est pas aussi étudier le fond marin, c'est encore autre chose ça.
Oui, ça, avec une collègue, donc Solène Rivoal, on est en train de préparer un autre projet, donc une histoire environnementale du fond de la mer, avec l'idée de la thèse du livre, c'est de dire que les fonds marins ont une histoire, sont pas des parties de la planète qui seraient restées à l'écart du temps de l'histoire, mais qu'ils ont de très longue date été affectés, transformés et dégradés même par les activités humaines. Et donc, il y a l'idée d'aller voir sous la surface pour montrer que ces fonds marins ont une histoire et une histoire très longue, parce qu'il y a déjà une histoire des fonds marins qui est celle de leur découverte au 19e siècle avec l'apparition de l'océanographie, la découverte des profondeurs, les premiers sondages profonds, la découverte de la vie profonde avec la fameuse expédition du Challenger dans les années 1870. Mais là, on voulait faire un peu autre chose, une histoire aussi plus incarnée en repartant des travailleurs. Et donc, cette histoire, on l'a fait remonter à des choses dont a déjà parlé Hugo tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire de l'exploitation des fonds proches par la plongée. Donc on s'intéresse à la pêche des huîtres perlières, du corail, des éponges. Et puis on fait le lien aussi avec la pêche du chalut qui se développe dès le 14e siècle. Et donc dès cette époque-là, un certain nombre de fonds à proximité des côtes commencent à être bouleversés, régulièrement exploités. On peut même considérer que la chasse baleinière, qui est vraiment, avec la morue, l'autre grande industrie maritime de la période moderne, a eu un impact sur les abysses, dans la mesure où, en prélevant, c'est des biologistes qui ont montré ça, en prélevant massivement ces stocks de cétacés pour les exploiter, pour utiliser leur graisse pour en faire de l'huile, eh bien, ça a empêché ce qu'on appelle le whale fall, la chute des carcasses de grands cétacés, qui servent de nourriture à toute une vie située au fond des abysses, à plusieurs milliers de profondeur. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que les activités humaines, dès le XVIe siècle, ont un impact sur les grands fonds marins.
Hugo Vermeulen, vous participez à cette aventure. Alors, dernière frontière, une histoire du fond de la mer. C'est quoi vous, alors, j'imagine qu'il y a peut-être du corail.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt l'histoire de la colonisation verticale, hein, puisque ça se passe sur des territoires coloniaux. Mais du coup, hein, avec cette approche par la mer en trois dimensions, et effectivement, hein, l'étude des fonds marins, moi, c'est plutôt les fonds de pêche, la cartographie des fonds de pêche, qui est élaborée à partir des années 1920, pour justement trouver de nouveaux territoires de pêche, notamment pour le chalutage de fonds, et qui amène, en fait, ces grandes campagnes qui vont être financées dans les années 20, amène l'introduction de nouvelles techniques, notamment du chalut atlantique, qui va avoir un impact encore plus désastreux que ne l'avait la pêche au bœuf sur les fonds marins algériens et tunisiens.
Oui, parce qu'on l'a bien évoqué, hein, c'est une histoire juridique et le droit a toujours été présent, mais cette histoire coloniale est là, vous venez d'utiliser l'expression colonisation verticale. C'est quoi ?
Oui, moi c'est une expression simplement qui caractérise le fait de prendre cette mer dans toute sa dimension et donc aussi dans toute son épaisseur historique, mais aussi, on va dire, environnementale.
Oui, parce que l'une des choses qui a vraiment changé dans l'historiographie ces dernières années, c'est la manière dont on étudie la mer. Et par exemple, il y a ce livre très fameux de Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen, qui date du milieu du XXe siècle, qui était déjà une révolution historiographique parce qu'il décidait de mettre la mer au cœur de son travail d'historien. Cela dit, chez Braudel, ça restait quand même une mer très en surface. Il s'intéressait à la Méditerranée comme moyen de connecter les différentes parties du monde méditerranéen. Et la révolution historiographique, il y en a même... Il y a certains collègues qui parlent de tournant océanique. C'est l'idée que maintenant, on s'intéresse aussi à ce qu'il y a sous la mer et on prend les mers et les océans dans toutes leurs dimensions, donc, y compris leur verticalité.
Et puis, bien rappeler que c'est une histoire, bien évidemment, incarnée. Hein. C'est une histoire sociale aussi. Ce n'est pas une histoire qui est privée d'individus. Parce que quand on parle de la mer et des fonds marins, on les imagine très souvent lointains. Ces fonds marins-là, on veut dire, ils sont déjà peuplés ou... À l'inverse, il peuple nos imaginaires, parce que c'est tout un aspect de cette question-là. Ça en fait partie aussi de cette étude-là, comment on imagine les fonds marins. Alors, de manière très triviale, comme une ressource absolument sensationnelle, ou tout simplement comme un espace pour rêver. Mais les gens qui gèrent l'argent, ils rêvent un peu moins.
Bah, l'un des enjeux du livre sur Dernière frontière, c'est justement d'étudier historiquement cet imaginaire de la dernière frontière. Cette idée que les fonds marins constituent une sorte de prolongement des environnements terrestres qu'on va pouvoir aller exploiter pour y trouver des nouvelles ressources. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît au milieu du 19e siècle. Alors, on exploitait les fonds de la mer bien auparavant, mais au milieu du 19e siècle, il y a vraiment cette idée que on va mettre la mer en culture, qu'on va essayer de développer l'aquaculture, qu'on va semer des choses, notamment des huîtres, pour rendre productifs des fonds qu'on considère improductifs. Et ça correspond aussi à une période où on commence à cartographier les différentes ressources qu'on trouve au fond de la mer. Donc ça, c'est un premier moment. L'autre moment, c'est les années 1950-1970, où, dans le contexte de la guerre froide notamment, on revoit apparaître cet imaginaire des fonds marins comme dernière frontière, un peu en lien avec la conquête de l'espace aussi. Il y a cette idée qu'il y a deux frontières que l'humanité n'a pas encore réussi à conquérir, c'est les grands fonds et l'espace. Et actuellement, on revoit cet imaginaire de la dernière frontière réapparaître avec tous les débats autour du minage en eau profonde, de l'exploitation des minerais, de ces fameux nodules polymétalliques notamment.
Voilà, bah pour la recherche aussi, c'est une belle nouvelle frontière, on peut le dire comme ça, hein, Hugo Morène. Il y a beaucoup à faire, il y a du boulot.
Énormément.
Nous avons aujourd'hui réfléchi à ces aspects historiographiques autour de la pêche et on voit bien la vivacité de la production de ces recherches diverses. Et alors moi, je vais orienter auditrices et auditeurs vers vos ouvrages. Romain Grancher, La mer en commun, le monde de la pêche à Dieppe, 18e, 19e siècle. Hugo Vermeuren, Les Italiens à Beaune, 1865-1940. C'est disponible, accessible sur Open Edition. Et puis donc, on attend avec impatience cette dernière frontière, une histoire du fond de la mer et puis tous ces projets qui doivent aboutir. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire.
Merci à vous.
On a commencé cette émission en poésie, on la termine en poésie.
Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent battent l'écume, soulèvent les souches des ronces. Les courants de la lande et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.
marine, Arthur Rimbaud, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Lalou, Maëlle Vincent Randonnier. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.